je vais m'appuyer sur un travail de thèse qui a été soutenu au mois de décembre dernier, thèse présentée par Kevin Morel, qui a travaillé sur la viabilité des micro-fermes maraîchères biologiques. Je vais être obligé d'être très sommaire, hein, j'ai piqué quelques diapos à Kevin avec son autorisation, mais je vais être obligé d'être très sommaire, parce que j'ai exposé une thèse, j'en aurai déjà pour trois quarts d'heure, minimum. Mais Kevin fait d'excellentes interventions orales sur le maraîchage bio, la permaculture, les micro-fermes, etc. Donc si vous voulez l'inviter à faire une conférence à Jean Blou ou ailleurs, je pense qu'il sera ravi. Donc je vais ne parler qu'un tout petit morceau de la thèse de Kevin. Encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les résultats sur le maraîchage en micro-ferme, c'est la démarche qu'il a employée et les nouvelles méthodes de recherche. Le travail de Kevin, c'est pour ça que j'ai quand même mis le plan de sa thèse, de sa soutenance, il a beaucoup porté sur la démarche qu'il pouvait mettre en œuvre, compte tenu de ses objectifs que je vais présenter, en enrichissant l'interaction entre le chercheur et l'agriculteur lui-même. Là, il n'y a plus de conseiller agricole qui fait l'intermédiaire. On est directement dans l'interaction entre le chercheur, en l'occurrence un doctorant encadré par son directeur de thèse, François Léger, et les agriculteurs eux-mêmes. Donc la question de la démarche de la thèse et des méthodes employées est un élément bien plus important pour moi en termes de production que ce qu'il a pu donner comme résultat sur la viabilité des micro-fermes maraîchères. Donc il a travaillé à partir de l'idée que les micro-fermes était finalement plus qu'un problème, qu'une question marginale à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'installent hors cadre familial, en agriculture en France, le font pour 30% d'entre eux, dans des situations où ils veulent redevenir paysans, entre guillemets, et ils ont une démarche éthique particulière, dans laquelle prennent beaucoup d'importance l'autonomie, en particulier l'autonomie par rapport à l'amont et à l'aval, donc en opposition à une conception industrielle de l'agriculture, et puis conception et démarche éthique qui est également marquée par le fait qu'on n'est pas dans une domination de la nature, mais qu'on est dans une coproduction d'agroécosystèmes entre la nature et l'homme. Les idées de Kevin sont venus du fait qu'il a travaillé dans la ferme de permaculture qui est la plus connue en France, qui est la ferme du Bec-et-Loing, qui notamment a été filmée dans le film Demain, qui est une ferme en Normandie, qui est assaillie de demandes de stagiaires et d'étudiants qui veulent aller travailler dans la permaculture. En pratique, ces agriculteurs qui veulent redevenir paysans, qui s'appuient sur ces deux éléments-là, mettent en œuvre des agroécosystèmes qui sont très diversifiés pour boucler les cycles, pour limiter l'usage des intrants. Ça renvoie aux deux conférences précédentes sur les rapports entre écologie et agronomie. Et puis, ils s'appuient sur les circuits courts pour s'extraire de la domination de l'agriculture industrielle. Et ils ont une recherche de proximité avec la nature, c'est la deuxième dimension éthique ici, qui fait qu'ils travaillent sur des petites fermes dans lesquels il y a beaucoup de travail, mais il y a une proximité très forte avec tous les éléments qu'ils peuvent appréhender sur de petites exploitations. Très souvent, il s'agit de maraîchage biologique. Ce n'est pas forcément systématiquement de l'agriculture biologique au sens de la certification, mais on est sur des systèmes à très bas niveau d'intrants au minimum et en maraîchage. 63% se tournent hors cadre familial vers l'agriculture biologique, 58% vers les circuits courts et 23% vers le maraîchage. Sachant que le maraîchage bio en système classique, c'est-à-dire homologué pour l'installation, c'est au moins 1,5 hectare cultivé par ETP avec un tracteur et moins de 30 légumes. Ça, c'est la caractérisation de l'agriculture biologique maraîchère classique. Et ceux qui s'installent dans ces micro-fermes que Kevin a étudiées, ils sont en rupture par rapport à ce système, sur des surfaces qui sont plus faibles et avec davantage de légumes. Donc on n'a pas de statistiques sur les micro-fermes parce qu'elles n'existent pas en tant qu'entité identifiée administrativement. En revanche, les structures qui travaillent sur l'installation sont débordées de demandes d'installation pour ceux qui veulent faire plus petit et plus diversifié que ce qui est autorisé pour le moment en agriculture biologique, en maraîchage. Donc Kevin a défini lui-même, puisqu'il n'y avait pas de définition administrative des micro-fermes, une micro-ferme comme étant une exploitation dans laquelle le maraîchage est la source principale de revenus pour l'agriculteur. On a moins d'un hectare et demi par équivalent temps plein. On a plus de 30 types de légumes cultivés et vendus en circuit court. On n'a pas forcément de motorisation. On ne s'exclut pas la motorisation, mais il n'y en a pas forcément dans l'exploitation. Et puis il y a une collaboration avec les écosystèmes, entre guillemets, et des pratiques biologiques qui peuvent être issues du cahier des charges de l'agriculture biologique, mais aussi d'autres sources d'inspiration internationale, l'agriculture naturelle japonaise, le maraîchage bio-intensif américain ou la permaculture d'origine australienne. Globalement, pour résumer, on est en recherche de sens en refusant les standards de la modernisation agricole, agrandissement et spécialisation. On va même plus loin, c'est-à-dire qu'on refuse les standards de l'agriculture biologique. Donc on est dans une démarche relativement extrémiste qui demande peu de foncier et de capital au départ. Ces systèmes de micro-fermes sont peu connus et critiqués, notamment du point de vue de la viabilité. On a des exemples historiques de maraîchage sur des micro-fermes, en France par exemple, à Paris au début du XXe siècle, ou à l'étranger, avec ce qui se fait aux États-Unis et au Canada, notamment avec Elliott Coleman. Donc il y a des exemples à l'étranger, il y a des exemples historiques en France de fermes qui vivaient au début du XXe siècle. En revanche, on n'a pas beaucoup d'analyses de la viabilité pour des systèmes de micro-fermes en France. On sait que des micro-fermes peuvent être productives, mais qu'elles demandent énormément de travail. Les premières analyses qui ont été faites sur la ferme du Bec et Loin montrent l'intensité en travail sur ces petites surfaces. Mais c'est plus facile dans des contextes au sud où la main-d'œuvre est facilement accessible. Par ailleurs, du point de vue de l'organisation du travail, travailler avec plus de 30 espèces sur l'exploitation, c'est relativement complexe. Et donc, ça augmente la charge en travail pour ceux qui sont sur l'exploitation agricole. Donc deux remises en cause de la viabilité de ces exploitations en micro-ferme. Une de type économique, si le coût du travail est important, on ne s'en sort pas. Et une de type social, on a une plus grande charge en travail, compte tenu de la complexité des systèmes qu'on veut mettre en place. Et donc ces systèmes sont potentiellement vus comme des systèmes utopiques et non viables. Et ce qu'a cherché Kevin, c'est à remettre ça en cause, ou au moins à le tester. Et la problématique qu'il affiche, c'est les micro-fermes qui questionnent la modernisation agricole peuvent-elles être viables dans le contexte des pays industrialisés, au-delà de quelques exemples médiatiques. Les exemples médiatiques, il pense évidemment à la ferme du Bec et Loin. Et donc il a cherché à se sortir de la ferme du Bec et Loin dans laquelle il avait travaillé comme salarié pour aller voir d'autres micro-fermes maraîchères en France et en Angleterre. En termes de démarche, c'est intéressant de voir comment se présente Kevin. Il s'ancre dans deux choses. Il prétend s'ancrer dans deux choses. Il se positionne comme un chercheur qui est orienté vers l'action, comme normalement tous les agronomes, pour répondre à une demande sociale. C'est aussi la finalité des agronomes. Ce n'est pas que de produire des connaissances scientifiques. Et il dit je m'ancre dans deux choses. Premièrement, l'agroécologie à l'américaine, qu'il caractérise de la manière suivante, qui intègre les sciences biophysiques et sociales, qui fait une place importante aux connaissances et savoir-faire des acteurs, et il s'ancre dans le militantisme critique en agronomie, donc là en citant des auteurs français, militantisme critique de l'agronome qui intègre une réflexion éthique et qui dialogue et agit pour la société. Au passage, ce n'est pas Pierre Rabhi qui a inventé l'éthique dans les problématiques agricoles. D'autres s'en sont préoccupés avant lui, puisqu'il cite Sébillot et Papy comme personnes qui ont réfléchi aux questions d'intégration de l'éthique dans la démarche. Donc ça, c'est son positionnement intellectuel. Et il prétend avoir une approche scientifique qui est inductive et non pas déductive. L'immense majorité des travaux en agronomie sont faits avec une approche déductive. On fait des hypothèses et puis on va tester ces hypothèses en situation plus ou moins contrôlée. Ici, il se place dans une démarche qui est inductive. On part de la réalité, puisque de toute façon, on ne la connaît pas. Et c'est à partir de cette réalité que l'on fait ressortir un certain nombre de faits et un certain nombre de connaissances. Donc à partir des cas singuliers d'un certain nombre d'exploitations en micro-ferme, à partir de l'expertise des paysans, il va sortir un certain nombre de connaissances qui sont à la fois des connaissances académiques, il fait une thèse, il faut bien qu'il publie, et puis des connaissances pragmatiques qui vont être utiles pour l'évaluation de la viabilité des micro-fermes et donc pour ceux qui ultérieurement voudront s'installer en micro-ferme. À l'intérieur de sa thèse, vous avez 5 articles ou projets d'articles. Je présente ça juste pour identifier ce dont je ne vais pas parler par la suite. Un article sur l'estimation du revenu sur la ferme du Bec-et-Loing. À partir de 3 ans de mesure, il a regardé quel était le revenu que l'on pouvait tirer par ETP sur une exploitation particulière. Il a exploré la viabilité économique des micro-fermes par un modèle de simulation. Il a conçu un modèle de manière à pouvoir aller au-delà du Bec-et-Loing et voir quelles étaient les caractéristiques des micro-fermes qui permettaient d'obtenir tel ou tel niveau de revenu. Il a exploré la viabilité économique de micro-fermes à Londres, en combinant la modélisation et puis des interactions en termes de discussion entre les agriculteurs et lui. Donc ça, ce sont les 3 dimensions qui correspondent à la viabilité économique sur laquelle il a fait un focus. À côté de ça, il a analysé les stratégies des micro-fermes pour gérer la complexité de la planification des cultures. L'autre dimension sur laquelle la viabilité était mise en cause, est-ce que les agriculteurs s'en sortent et comment ils s'en sortent du point de vue de la gestion sur plus de 30 espèces par exploitation. Et puis, et c'est juste cet élément-là de résultat que je vais évoquer, il a travaillé sur la définition de la viabilité et sur la manière dont les agriculteurs définissent leur projet de vie et articulent leurs choix stratégiques et leurs projets de vie. En fait, il a voulu, à partir de cette analyse empirique sur des exploitations en France et en Angleterre, sortir de la dimension classique de la viabilité, qui était la dimension économique, plus la dimension organisation du travail. Je vais revenir là-dessus. Finalement, lui propose d'intégrer les acteurs à toutes les étapes de la démarche de sa thèse. Au niveau de la construction de la problématique, ce qui n'est pas banal, je ne connais pas beaucoup de thèses dans lesquelles la problématique a été discutée avec les agriculteurs. Au niveau du recueil des données, il a besoin des agriculteurs pour recueillir un certain nombre de données. Ça, c'est beaucoup plus classique. Les agriculteurs sont archi surpâturés de chercheurs qui viennent discuter avec eux de leurs données. Discussion avec les agriculteurs au niveau de la présentation et de la discussion des méthodes. Ça, c'est pas banal non plus. Aller discuter avec les agriculteurs, la façon de travailler en recherche. Et puis, discussion avec les agriculteurs sur la discussion des résultats, mais pas seulement la discussion des résultats, la validation des résultats. Validation et discussion qui ont été aussi réalisées avec d'autres agriculteurs que les 20 qu'il a enquêtés en France et les 10 qu'il a enquêtés en Angleterre. Donc finalement, une association des agriculteurs a beaucoup plus large que simplement la conception des systèmes, comme on l'avait vu dans le premier exemple, voire même ici, il n'y a pas de conception, il n'y a pas de co-conception des systèmes avec les agriculteurs. On n'est pas dans la conception, on est dans l'analyse de ce qui se passe, dans cette démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, qui n'est pas hypothético-déductive, qui est empirique, qui est inductive. On n'a pas de conception de système, et l'association de la recherche et des agriculteurs se fait à un tout autre endroit, et en fait à plusieurs endroits. Donc je mets un tout petit focus dans les résultats sur cette question de la viabilité parce qu'elle me paraît très illustrative de cette prise en compte de l'acteur dans la recherche. Finalement, la grande question de recherche qui intéressait le plus Kevin, il a bossé sur l'évaluation économique, mais à mon avis ça n'intéressait que moyennement, c'était plutôt pour publier. Donc, je retire ce que j'ai dit même si c'est enregistré. Mais je pense que foncièrement, c'était plus cette dimension de la viabilité qui l'intéressait. Donc comment définir et aborder la viabilité des systèmes agricoles alternatifs que sont les micro-fermes ? classiquement, comment la viabilité est-elle intégrée dans l'évaluation des systèmes agricoles? La viabilité, c'est une dimension économique de la durabilité. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est la viabilité dite économique, lorsque l'on a des radars, on a la durabilité sociale, environnementale et économique. Et finalement, la viabilité est assimilée à la dimension de revenu de l'agriculteur. Et donc, lui, il a travaillé sur une autre manière de faire. Il s'est intéressé à la théorie mathématique de la viabilité. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qui l'intéresse, c'est un système est viable s'il remplit un certain nombre de contraintes qui lui permettent de continuer à exister au cours du temps. C'est beaucoup plus large comme définition de la viabilité, mais ça pose une difficulté. Ça veut dire quoi? Continuer à exister au cours du temps. Il y a une dimension d'ordre économique, et pour continuer à exister au cours du temps, il faut au minimum que l'agriculteur, ait envie de continuer à cultiver dans ces conditions-là. Ça peut être rentable, mais ne pas le satisfaire sur un certain nombre d'autres critères. Et finalement, d'un point de vue pragmatique, c'est une autre manière de formuler la question. Pourrais-je vivre dans une micro-ferme au cours du temps? Il a commencé à réfléchir à cet ensemble-là. Et finalement, une chose qui lui est apparue importante, c'est que, et là c'est sa formation d'agronome sûrement qui lui faisait réfléchir à ça, une exploitation agricole, une ferme, c'est un système qui est piloté par l'homme. Et donc, c'est avant tout l'agriculteur qui décide ou non de continuer son activité. Et ça, ce n'est pas uniquement des dimensions d'ordre économique qui vont le déterminer. Il y a une dimension subjective de la viabilité. Qu'est-ce que l'agriculteur, le paysan, pour retenir la terminologie de Kevin, désire et peut accepter? Donc, il a décidé d'enquêter ça. Et auprès de 14 agriculteurs, il a fait un certain nombre d'entretiens pour identifier finalement qu'est-ce que c'était pour l'agriculteur que de pouvoir continuer à travailler sur son exploitation agricole. Et à partir de ces 14 exploitations, de ces 14 successions d'entretiens, il a identifié 5 pôles qui correspondent à différentes dimensions d'un projet de vie pour les agriculteurs. On retrouve ici des choses qui sont assez classiques. Il faut un revenu décent, il faut une charge de travail acceptable, et puis des choses qui sont moins couramment mises en avant, une qualité de vie et de travail, une autonomie, et puis ce qui est le moins souvent considéré, un certain sens et un certain engagement. Y compris dans les rubriques les plus classiques, comme le revenu décent, on va avoir chez un certain nombre d'agriculteurs des choses que on n'en retrouve pas forcément dans les préoccupations habituelles quand on fait l'évaluation des systèmes. Par exemple, un revenu décent, pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les employés. On va retrouver, si on regarde la rubrique sens et engagement, des choses qui ne sont jamais évaluées. L'engagement dans la vie locale, la préservation de la biodiversité cultivée, la création d'écosystèmes riches. Je prends juste quelques exemples. Donc à partir de ces entretiens auprès de 14 agriculteurs, il identifie tout un tas d'items qu'on peut regrouper dans ces 5 rubriques qui sont finalement des caractéristiques de viabilité qu'il va s'efforcer de prendre en considération lorsqu'il va discuter de ce qu'un agriculteur peut accepter pour le futur et donc de l'évaluation de la viabilité des micro-fermes. Et puis, il a travaillé au-delà de cette identification des critères de viabilité sur l'articulation entre les choix stratégiques des agriculteurs et ces critères de viabilité qui sont autant d'éléments des projets de vie des maraîchers. Les choix stratégiques, ce sont des choix très classiques lorsqu'on est en situation de recherche en agronomie. On regarde finalement quels sont les investissements de l'agriculteur, comment il gère sur le plan technique et économique son exploitation, comment il s'organise, etc. Donc il n'y a rien de très innovant là-dessus. Il a juste tenté de relier et de voir la cohérence entre ces éléments des projets de vie et les choix stratégiques. Choix stratégiques et éléments de projet de vie qui finalement correspondent soit à des dimensions matérielles en rouge, soit à des aspirations immatérielles en vert. Donc de manière tout à fait attendue, il s'est rendu compte qu'il y avait des antagonismes entre certains des items présents dans les différentes rubriques et que les agriculteurs étaient en tension entre différents aspects de leur projet de vie et étaient obligés de faire des compromis dans leur choix stratégique pour satisfaire le minimum vital des différentes aspirations. Minimum vital qui va évidemment être pondéré de manière différente entre les agriculteurs. Certains vont mettre plus de poids sur la dimension sens et engagement et d'autres plus de poids sur la dimension qualité de vie et de travail, par exemple. Donc je ne rentre pas dans les détails des résultats qu'il a obtenus. En termes de conclusion du travail, ce que met en avant Kevin, c'est la définition de la viabilité du point de vue du paysan. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où la viabilité est définie de manière exogène par le chercheur ou par l'administration. La viabilité est définie du point de vue du paysan avec un ensemble de rubriques et d'items qui est beaucoup plus riche que ceux qui sont utilisés administrativement ou par la recherche. Je ne présente pas les détails, mais il montre qu'il y a une certaine pertinence d'aborder la viabilité à partir des choix stratégiques des exploitants, qu'il est important de considérer les compromis, et puis qu'il existe une diversité des choix stratégiques des micro-fermes. Et c'est à partir de cette diversité qu'il a bâti le modèle de simulation qui lui a servi ensuite pour évaluer la viabilité des exploitations, en particulier des micro-fermes maraîchères londoniennes. La théorie de la viabilité, au sens écologique, lui permet de garder une diversité de choix stratégiques et pas de rentrer dans un modèle déterministe de simulation. On part plutôt des objectifs finaux et on regarde quelles sont les combinaisons de choix stratégiques qui permettent d'aboutir aux objectifs finaux. Je passe finalement sur ces éléments de conclusion-là qui me semblent moins importants. Sinon, je n'aurai pas le temps de faire la deuxième partie. Hop, je passe sur toutes ces conclusions. Et ça, c'est la dernière diapo de la soutenance de thèse de Kevin. Élément de discussion sur ce deuxième exemple. Vous concevez assez différent du premier exemple sur le cheminement de développement et de production de références en chambre d'agriculture. Ici, l'association des agriculteurs ne porte pas sur la conception des systèmes, mais sur leur évaluation, en intégrant une dimension subjective. Et puis sur les autres étapes plus classiques de l'association des agriculteurs, quand on leur restitue des résultats ou quand on va leur piquer des données. Deuxième élément de discussion, finalement cette irruption des dimensions subjectives, ça interroge beaucoup, en tout cas moi ça interroge les scientifiques, ça interroge les agronomes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut ou pas, est-ce qu'il faut ou pas les incorporer dans des travaux d'agronomes? Soit en travaillant sur l'individu, soit sur le contexte de travail, sur l'individu, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire des typologies d'agriculteurs plus ou moins sensibles à la beauté des paysages ou à la diversité biologique dans leurs parcelles? Je ne sais pas, je m'interroge. Soit sur le contexte de travail, est-ce qu'à partir de la définition du contexte de travail, on peut garantir l'obtention d'un certain nombre de valeurs subjectives des agriculteurs? Finalement, bouger dans la manière de faire, c'est dérangeant et c'est interrogateur pour ceux qui sont dans des standards habituels de démarche de recherche. Cette façon d'appréhender la viabilité, ça ouvre pour moi de nouvelles questions, pas du tout abordées par Kevin. Par exemple, la satisfaction de critères collectifs n'est pas garantie par la somme de satisfaction de critères individuels. C'est une évidence. Mais dans sa démarche, Kevin, il s'intéresse à chacun des agriculteurs et il regarde qu'est-ce qui est important pour lui pour continuer à vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'en faisant la somme des agriculteurs, on va satisfaire les besoins de la société. C'est vrai pour les aspects quantitatifs de production alimentaire, comme c'est vrai pour la production de services écosystémiques. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on considère que les aspirations des paysans et pas celles du reste de la société? C'est super important de regarder ce qui est important pour l'agriculteur et ce qui fait que la ferme est viable pour lui, si on veut continuer à avoir des paysans. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il y ait une dictature de la paysannerie, comme une dictature du prolétariat, où ce soit les agriculteurs eux-mêmes qui décident de ce que doit être l'agriculture. Il faut évidemment qu'il y ait une composition avec les aspirations du reste de la société. Et puis, dernier élément de discussion, finalement, quel est le fonctionnement technique des fermes? À part l'organisation du travail, Kevin a très peu regardé les dimensions écologique, on va dire, qui prévalent à l'intérieur des exploitations de micro-fermes. Comment tout ça, ça fonctionne quand on s'inspire de la permaculture, du biomaraîchage intensif américain, de l'agriculture naturelle japonaise? Finalement, quelles sont les marges de progrès dont on dispose pour aller au-delà des résultats actuels et être capable d'améliorer les systèmes pour qu'ils soient encore plus viables et encore plus performants au sens des agriculteurs? Et on aura besoin certainement de coupler le type d'approche qu'il a mené avec des approches agronomiques plus classiques. Troisième exemple. J'hésite parce que le temps passe. Et si je veux avoir du temps à consacrer à la dernière partie, il va falloir que je fasse des sacrifices. Je vais essayer de zapper quelques diapos, tout en gardant la substantifique moelle de l'exemple. Autre exemple de travail de thèse. Je vous avais dit la dernière fois, j'aime bien m'appuyer sur les travaux des doctorants, parce que c'est l'actualité de la recherche. Ça permet de mettre en valeur ce qu'ils réalisent. Thèse soutenue très récemment, celle de Clémence Ravier, il y a un mois, le 10 février 2017. Il s'agit ici d'un exemple encore assez radicalement différent. La conception d'une nouvelle méthode de fertilisation azotée du blé à travers une démarche de recherche qui associe encore différemment les agriculteurs et en particulier dans l'utilisation des outils de pilotage. La fertilisation azotée du blé, je ne sais pas comment elle est menée en Belgique, mais en France, elle est menée depuis 40 ans, 50 ans, de la même manière, c'est-à-dire avec la méthode du bilan prévisionnel. Développé par Hébert et Rémy, Hébert en 1969, on a raffiné cette méthode-là pendant 50 ans, en affinant l'estimation des différents postes, un bilan entre les besoins de la culture et les fournitures, par le sol, les résidus de culture, les engrais, les dépositions atmosphériques, etc. Donc on a affiné pendant 50 ans l'estimation des différents postes, et puis on a diffusé de manière massive la méthode, qui est celle qui prévaut de manière très 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 forte à l'heure actuelle pour le conseil en fertilisation azotée en France. Mais on continue à avoir des problèmes environnementaux liés à l'azote, qu'ils soient liés aux fuites vers les nappes phréatiques ou qu'ils soient les émissions de protoxyde d'azote. Donc l'amélioration de la méthode du bilan ne permet pas de satisfaire les besoins de la société vis-à-vis de la diminution des risques liés aux fuites d'azote. Et puis deuxième chose, on constate que la connaissance a continué à avancer en matière de dynamique de l'azote, de fonctionnement des peuplements végétaux, de liens entre la matière organique du sol et un certain nombre d'organismes du sol responsables de la minéralisation, etc., etc. Et ces connaissances, qui permettraient d'améliorer l'efficience d'utilisation des engrais, ne sont pas valorisées. En particulier, deux connaissances mises en évidence au cours des deux dernières décennies. La première, c'est que des périodes de carence en azote peuvent ne pas être préjudiciables par rapport à l'élaboration du rendement et à l'élaboration de la qualité, alors que la méthode du bilan implicitement dit qu'il faut toujours être à un indice de nutrition azotée de 1, et donc il ne faut pas avoir de carence en azote. Et puis deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un lien entre la vitesse de croissance au moment de l'apport et l'efficience de l'utilisation de l'azote. Donc on constate qu'on utilise toujours la même méthode depuis 50 ans, qu'elle ne permet pas de résoudre les problèmes de pollution, en tout cas pas de manière satisfaisante, et qu'on n'utilise pas les dernières connaissances scientifiques qui permettraient d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'azote. Et d'où l'idée d'avoir une méthode différente, innovante, qui permette à la fois de mieux satisfaire les ambitions environnementales et qui valorise les connaissances existantes. Et en même temps, un souci, et c'est là en particulier que l'agriculteur intervient, un souci de réfléchir très en amont sur l'usage de la méthode par les agriculteurs. C'est-à-dire de ne pas proposer un outil ou une méthode sans l'avoir conçu, pas seulement théoriquement, mais de manière très concrète en réfléchissant aux usages de la méthode par l'agriculteur. Finalement, le travail qui a été réalisé par Clémence Ravier est en 3 étapes. Un diagnostic des usages, un processus de conception innovante, et puis après un test du prototype de la nouvelle méthode mise au point en situation d'usage. Deux originalités principales, me semble-t-il. La première, c'est diagnostic des usages, c'est-à-dire que c'est en allant voir les agriculteurs et la façon dont ils manipulaient les méthodes de fertilisation, et de raisonnement de la fertilisation plus exactement, qu'on a eu le point de départ pour la conception de la méthode innovante. Et la deuxième originalité, c'est utiliser des méthodes qui sont plutôt d'habitude en cours dans le domaine industriel sur de la conception innovante pour produire une nouvelle méthode de raisonnement de la fertilisation azotée. La troisième étape, test du prototype en situation d'usage, me paraît moins originale. Pour illustrer la question de diagnostic sur les usages, Clémence Ravier a finalement fait une grande enquête et consulté un certain nombre de documents officiels partout en France pour identifier quelles étaient les limites du modèle actuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui pêchait dans l'utilisation de la méthode du bilan, et puis quelles étaient les attentes des utilisateurs par rapport à une méthode innovante de raisonnement de la fertilisation azotée. Et dans cette phase de diagnostic sur les usages, elle a mis en évidence des choses qu'on connaissait intuitivement mais qui n'étaient pas formalisées. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans les campagnes sur la manière de fixer un objectif de rendement. Pour pouvoir utiliser la méthode du bilan, il faut être capable d'estimer les besoins. Et pour estimer les besoins, on a besoin d'avoir un objectif de rendement qu'on multiplie par 3 kg par quintal. Et il n'y a pas de consensus, et c'est un objet perpétuel de conflit, sur la manière de fixer l'objectif de rendement. Est-ce qu'il faut prendre l'objectif de rendement maximal qu'on peut atteindre sur la parcelle? Est-ce qu'il faut prendre le 8e décile? Est-ce qu'il faut prendre la moyenne? Est-ce qu'il faut prendre le mode? Et donc, une des innovations dans la méthode de raisonnement de la fertilisation, c'est finalement de raisonner sans objectif de rendement. Et ça, c'est une révolution pour les agronomes. Quand vous dites à un agronome que vous allez raisonner la fertilisation azotée sans prendre en compte un objectif de rendement, ça passe très très difficilement. Moi-même, je dois avouer, la première fois qu'on m'a dit, je pensais que mes collègues déliraient et qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Et puis la deuxième chose, c'est intégrer de manière beaucoup plus explicite la gestion du risque, élément que les agriculteurs, évidemment, prennent en compte de manière perpétuelle, tout le temps, et ce qui induit des surfertilisations, si on n'est pas capable de leur dire qu'on a une méthode claire qui leur permet, au jour le jour, et non pas seulement une fois par an quand ils définissent l'objectif de rendement et la dose à apporter, quel est le risque qu'ils vont prendre. Et donc les deux innovations portent sur l'intégration de la gestion du risque et le raisonnement sans objectif de rendement. Et ces deux innovations sont issues directement du diagnostic sur les usages qui a été réalisé auprès des praticiens et de leur utilisation de la méthode du bilan. En termes de conception innovante, je vais là zapper un certain nombre de diapositives. Clémence Ravier s'est appuyée sur la méthode CK, qui est une méthode de conception innovante dans le domaine industriel. C pour concept et K pour knowledge, connaissance, en français. C'est une méthode qui permet de dialoguer entre deux univers, celui des concepts et celui des connaissances, et petit à petit, dans des ateliers de conception innovante, de déboucher sur des choses qui soient satisfaisantes. On génère collectivement un certain nombre de caractéristiques pour la future méthode à partir de ces méthodes de conception innovante. On valorise les nouvelles connaissances, on fait des opérations de prototypage et on arrive à la production d'un prototype. Donc, là vous avez le schéma de l'atelier de conception innovante. On dialogue entre l'univers des concepts et l'univers des connaissances. On veut aboutir à une méthode de raisonnement de la fertilisation azotée sans objectif de rendement. Et dans des ateliers de conception, entre agriculteurs et scientifiques et conseillers agricoles, petit à petit, en utilisant les connaissances qui existent, nouvelles, ben finalement, on débouche sur une méthode de fertilisation qui s'affranchit de l'objectif de rendement et qui permet au jour le jour à l'agriculteur de gérer le risque sur son exploitation. Je passe sur les détails et sur l'évaluation du prototype. Donc finalement, ce qu'a produit Clémence Ravier, c'est un nouveau paradigme de la fertilisation azotée dans lequel il n'y a pas de dose a priori, il n'y a pas d'objectif de rendement, on accepte les carences azotées et on a un indicateur de la plante qui permet à chaque instant pour l'agriculteur de savoir si, à partir du niveau de carence auquel il est, il faut qu'il apporte de l'azote ou il ne faut pas qu'il apporte de l'azote, ou ce n'est pas la peine qu'il apporte de l'azote. Donc c'est un indicateur qui est lié à des caractéristiques de réflectance de la plante, peu importe. Et on est dans une situation où cette méthode de fertilisation innovante permet un apprentissage par l'agriculteur et une autonomisation de l'agriculteur qui devient maître au jour le jour de sa décision d'apporter ou de ne pas apporter d'azote. La thèse de Clémence est aussi disponible sur Internet, donc si vous voulez davantage de détails, vous les trouverez sur Internet. Élément de conclusion de ce troisième exemple, on a ici des démarches de recherche qui sont aussi innovantes, c'est-à-dire qu'on emploie des méthodes formalisées de conception qui sont issues du milieu industriel et adaptées à l'agriculture. Quand je dis rénovation des méthodes de recherche en agroécologie, ça peut aller jusqu'à ce genre de choses. Deuxième point de discussion, l'association des acteurs à la conception va jusqu'à l'analyse de l'usage. Ce n'est pas du tout la même chose pour moi de parler de mobilisation des connaissances des agriculteurs et de mobilisation d'une analyse de l'usage qui est fait des outils par les acteurs eux-mêmes. L'association des acteurs intègre aussi l'évaluation, mais ça c'est beaucoup plus classique. Et puis l'association des acteurs, finalement, pour moi, renouvelle le regard qu'on va porter sur les outils entre la conception d'un outil en laboratoire qui est diffusé auprès des agriculteurs et la conception d'un outil qui part de l'usage, qui associe les agriculteurs à la conception et qui est évalué chez eux. Et puis, troisième élément de discussion, la portée de l'innovation peut être très grande. Vous imaginez si il y a combien de millions d'hectares de blé en France? 6 millions d'hectares de blé en France basculent vers une autre méthode de fertilisation azotée plus efficiente, on peut avoir un impact qui peut être très important, même si les systèmes sont peu remaniés. Parce que là, on n'a pas besoin d'une approche système de culture. On modifie l'outil, et en modifiant l'outil, et si on gagne 0,1 point dans le coefficient apparent d'utilisation de l'azote sur les surfaces en céréales en France, le gain, il est considérable. Donc finalement, sur cette première partie, qui produit les connaissances et comment? Conclusion très très partielle, je ne reprends pas tous les éléments de discussion que j'ai mis derrière chacun des trois exemples et sur les premiers points de cette partie-là. Et finalement, associer d'autres acteurs, il faut le décliner pour voir la richesse. On peut associer d'autres acteurs pour leurs connaissances, c'est l'acception la plus classique, mais aussi pour leurs valeurs. Et c'est une des plus-values de la thèse de Kevin. Et puis pour des usages qu'ils font des outils et connaissances, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans la thèse de Clémence Ravier. Donc quand on dit il faut changer les démarches en agroécologie, il faut associer les acteurs, c'est vrai, mais précisons, et finalement il y a une grande richesse et une grande diversité dans la manière dont on peut associer les acteurs au chemin de production de connaissances. Deuxième grande partie, les transitions. C'est aussi un grand chapitre de la transformation des chemins de développement et de recherche en agroécologie. C'est bien joli de produire des outils nouveaux, de produire des systèmes nouveaux, mais comment fait-on bouger les gens? Comme j'ai soif de temps en temps, ça vous permet de vous reposer. Donc cette question des transitions, elle est devenue omniprésente chez ceux qui discutent d'agroécologie. Ici, vous avez une représentation par Stéphane Bellon des voies de transition vers des systèmes qui soient finalement satisfaisants et durables. On est ici dans des systèmes conventionnels. On a les systèmes à bas niveau d'intrant des agriculteurs. On a les systèmes traditionnels indigènes. Il faut qu'on réussisse à passer de là à là, de là à là. Ces systèmes-là sont intéressants du point de vue de la durabilité qui figure en abscisse. En revanche, ils ont une faible productivité qui figure en ordonnée. Ces systèmes-là ont une forte productivité, mais une faible durabilité. On peut passer à des systèmes en transition quand on va mobiliser les différents leviers qui nous sont familiers à partir des conférences précédentes, ceux de, finalement, on va dire les leviers d'Altieri, pour faire plus vite. Et puis, il va falloir passer de ces systèmes en transition, petit à petit, vers des systèmes dont on augmentera les performances en termes de productivité et dont on augmentera simultanément les performances en termes de durabilité. Ça relève d'une dimension d'ordre technique. Là, je renvoie aux conférences précédentes. Mais ça relève aussi d'une dimension d'organisation, qu'il s'agisse d'une organisation de la recherche, qu'il s'agisse d'une organisation économique ou qu'il s'agisse d'une organisation sociale. Et c'est l'objet de beaucoup de préoccupations. Le dernier symposium de l'IFSA, International Farming System Association, à l'été 2016, qui se passait dans l'université Harper Adams au nord de l'Angleterre, avait pour thème cette question des transitions. Donc vous pouvez aller sur le site de la 12e conférence de l'IFSA et vous trouverez les éléments des exposés, des présentations qui ont été réalisées pendant ce symposium. Ça traduit le fait que c'est vraiment un sujet d'actualité et l'objet d'un certain nombre de travaux au niveau international. Alors j'ai deux points sur cette question des transitions. Le premier point, c'est la mobilisation des théories des transitions, au pluriel. C'est quelque chose qui, je pense, est assez familier dans votre univers universitaire, puisque c'est les travaux de... Je ne sais pas comment on prononce en... Donc Reels, G-E-E-L-S, on dit comme ça en flamand. Reels, peut-être. Bref, je vais expliquer ce dont il s'agit. Je m'appuie notamment sur un exposé qu'a fait Sybille Buy, qui est une ancienne doctorante qui a fait son travail à Avignon sur la Biovallée, qui à l'heure actuelle est en post-doc à Louvain-la-Neuve. Elle fait d'excellents exposés sur ces questions de transition. Et c'est, je pense, pas difficile. Je crois qu'elle est encore en congé de maternité. Mais c'est certainement pas difficile de l'inviter à venir faire des exposés à Jean Blou sur cette question-là. Donc je lui ai pris quelques diapos, avec son autorisation bien sûr, issus d'un séminaire qui a été réalisé au mois de septembre à Paris sur ces questions de transition au niveau du département SAD de l'INRA. Donc elle avait intitulé son exposé « Mobiliser la théorie des transitions pour penser les changements agricoles et alimentaires ». Intérêt, point aveugle et perspective. Je n'ai repris qu'un tout petit nombre de ces diapositives pour introduire cette question de théorie des transitions et de la manière dont on peut la mobiliser. Donc la théorie des transitions socio-techniques, c'est une approche a priori séduisante que Sybille, dans sa thèse sur Biovallée, a mise à l'épreuve pour voir comment un ensemble d'acteurs évoluait pour passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture agroécologique. Donc la théorie des transitions, elle s'appuie sur la notion de système socio-technique agricole. Le système socio-technique, c'est aux acteurs habituels des filières, les réseaux de production et distribution d'intrants, l'aval, donc l'amont, l'aval, le conseil agricole, les agriculteurs. C'est à ces acteurs traditionnels un ajout, deux dimensions d'un autre ordre, les dimensions culturelles et les significations symboliques qui y sont attachées, les dimensions d'organisation économique de l'ensemble du marché jusqu'aux pratiques des consommateurs, ce sont les dimensions de politique publique et puis les dimensions d'organisation de la recherche. Donc le système socio-technique, c'est les filières et les territoires plus toutes ces dimensions-là. La théorie des transitions, donc voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, RILS, la multilevel perspective. C'est la perspective multiniveau qui lie trois niveaux différents. Alors on commence par le régime socio-technique. Le régime socio-technique, c'est un ensemble de composantes, le marché, l'industrie, les politiques publiques, la science, la culture, la technologie, qui évolue au cours du temps, ça c'est un axe des temps, et qui est en équilibre dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, mais que les différentes évolutions de ces composantes bougent ensemble et le régime socio-technique est à peu près stable. À côté de ce régime socio-technique, vous avez de manière beaucoup moins structurée, ça c'est un axe qui donne le degré de structuration des activités, des niches dans lesquelles il y a un certain nombre d'innovations qui sont mises en place par différents réseaux d'acteurs qui produisent des nouveautés, qui soutiennent des nouveautés, qui permettent de satisfaire des attentes qui ne sont pas remplies par le régime socio-technique dominant. Et puis de temps en temps, une niche parvient à émerger, vient perturber la belle dynamique du régime socio-technique, transforme cet ensemble-là qui devient brownien là, et agité avec des petites flèches partout. Et puis on débouche sur un nouveau régime socio-technique, une nouvelle configuration qui a utilisé une niche qui est venue le perturber. Cet ensemble-là est dominé par le paysage socio-technique avec ces belles vagues là, qui est pour moi un concept un peu vague, mais on imagine bien que c'est quelque chose qui relève de dimensions d'ordre politique, par exemple, qui vont structurer le régime socio-technique et qui vont aussi influencer sur l'émergence ou la non-émergence de niches. Donc ça, c'est une représentation qui est devenue très prégnante dans les travaux qui sont menés sur la transition, en essayant d'appliquer ce système-là à l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que le régime socio-technique est stable ? Qu'est-ce qui fait que des niches émergent ? Et qu'est-ce qui fait que des niches arrivent à venir perturber le régime socio-technique et à le transformer ? Puisque finalement, ce qu'on souhaite tous, c'est que ce régime socio-technique-là, qui n'est pas satisfaisant, soit transformé. Étudier les transitions, ça peut se faire en étudiant les relations entre ces trois entités, en comprenant comment elles opèrent, et du coup en étant capable d'agir dessus. Mais la multilevel perspective fait l'objet de critiques, malheureusement. Enfin, malheureusement, pour ceux qui veulent l'employer de manière immédiate. D'une part, parce qu'il y a un flou conceptuel autour de certaines notions, et puis parce qu'il y a un certain nombre de points aveugles dans la MLP. Je ne rentre pas du tout dans les détails. Sybille a mis en face de chacune de ses critiques un certain nombre de références bibliographiques qui permettent de montrer tout simplement qu'il n'y a pas consensus sur le fait que la vraie vie soit illustrée correctement à travers la MLP. Si on regarde les points aveugles de la transition, de la MLP, pardon, ben finalement la MLP, elle ne discute pas du tout des mécanismes de transition. Elle illustre le fait qu'il y a différentes catégories d'acteurs, mais elle ne dit pas qu'est-ce qui fait que l'on passe de la niche inefficace, qui s'agite en bas du schéma, à une niche qui permet de percer au niveau du système socio-technique, du régime socio-technique. Elle ne parle pas non plus de la nature des interactions entre la niche et le régime, et puis elle ignore dans une certaine mesure le rôle des acteurs individuels pour s'intéresser surtout aux trois grandes catégories d'acteurs en les regroupant sous un label. Pour illustrer les discussions en cours sur la théorie des transitions et sur la MLP, j'ai pris quelques diapositives à Beli Elsen, qui est un chercheur néerlandais, qui est intervenu lors de ce même séminaire à Paris le 13 septembre 2016. Il a une autre représentation de la MLP, mais c'est la même chose. Ici, vous n'avez pas l'axe des temps, mais vous retrouvez les niches, les régimes socio-techniques et le paysage au-dessus, avec cette dynamique qui fait passer les niches porteurs de nouveautés, avec les flèches ascendantes, vers le régime socio-technique qu'elles vont modifier. Bully Elsen provient non pas du milieu agricole, mais du milieu industriel au départ. Et donc il a une vision particulière, parce qu'il s'attache à voir en quoi le domaine agricole est différent du domaine industriel. Et en particulier, il met l'accent sur le fait que, en agriculture, les innovations vont être sur une grande diversité de thèmes. Et donc il y a beaucoup de niches qui peuvent se constituer simultanément. On n'est pas comme dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, ou dans le domaine de l'industrie automobile, ou dans le domaine des pompes à chaleur. Voilà, on a un objet, une machine, un régime, et ben, les innovations, elles vont tourner autour d'un petit nombre d'items possibles. En agriculture, je ne vous fais pas de dessin, mais il y a une grande diversité, depuis la génétique jusqu'à l'usage des antibiotiques en élevage, d'endroits sur lesquels il peut y avoir de l'innovation. Donc il y a beaucoup de niches simultanées. Il y a beaucoup d'innovations bottom-up parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Les industriels de l'aviation, il n'y en a pas beaucoup. Des agriculteurs, il y en a beaucoup. Et donc il y a une capacité de production d'innovation en termes de nombre qui est bien supérieure dans le domaine agricole par rapport au domaine industriel en général. Et puis beaucoup d'acteurs opèrent à la fois au niveau des niches et au niveau du régime. Vous prenez un agriculteur lambda, il peut être à la fois innovateur sur ses machines de manière à améliorer sa moissonneuse-batteuse ou son outil de strip-till, et puis être administrateur à la coopérative ou élu au syndicat agricole qui représente le régime socio-technique dominant. Et donc Bully Elsen a réfléchi à finalement ce qu'était la MLP si on voulait la représenter en agriculture, en essayant en particulier de représenter le fait qu'il peut y avoir des recouvrements entre niches et régimes. On n'a pas des niches qui grouillent en bas et puis le régime au-dessus. Il y a finalement des recouvrements entre les deux. Il faut être capable de montrer que le paysage qui est au-dessus influence simultanément à la fois le régime et les niches. Et finalement, cet ensemble-là, il n'est pas aussi hiérarchique que dans la représentation qui figurait. Et sa représentation de la MLP, c'est plutôt ça. Ce qui est assez radicalement différent en termes de relations entre les différents acteurs. Donc je ne rentre pas dans le détail de cet ensemble-là. Donc à partir de cette vision provocative, puisqu'il a quand même provocatrice, il casse quand même un peu le mythe de la MLP, il produit autre chose, il produit en particulier le concept d'ancrage, et il réfléchit à la manière dont les niches s'accrochent à un moment au régime socio-technique et aux conditions qui font que dans le domaine agricole, une niche en particulier ou une combinaison de niches vont être capables, en termes de mécanisme, de venir percuter le régime socio-technique. En particulier, il dit que l'ancrage peut se faire soit sur le plan technologique, soit sur le plan d'un réseau d'acteurs, soit sur le plan d'un ancrage institutionnel lorsque de nouvelles règles permettent cet accrochage de la niche au régime socio-technique. Il ne s'agit pas pour moi de faire un cours sur la théorie des transitions, d'autant que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais juste d'illustrer les évolutions, enfin les discussions qu'il peut y avoir, à la fois le caractère heuristique de la théorie des théories des transitions, et puis des échanges qu'il peut y avoir et du fourmillement d'idées qui, à l'heure actuelle, autour des théories des transitions. Je reviens à l'exposé de Sybille Buy, et en particulier à l'exposé de sa thèse. Finalement, Sybille, elle a essayé d'utiliser la MLP pour analyser quelque chose qui est l'émergence de la Biovallée en France, dans le département de la Drôme. Donc la Biovallée, c'est une vallée dans laquelle on a 18% d'agriculture biologique, ce qui est nettement supérieur à la moyenne française, qui doit être à 3,5 ou 4% à l'heure actuelle. Donc on est passé dans cette vallée-là, d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique. Non pas encore dominante et massive, mais en tout cas très significative. Et elle a essayé de comprendre, à partir notamment de la MLP, comment ce passage avait été possible. Parce que ça peut être un modèle ou un exemple pour d'autres situations dans lesquelles on voudrait avoir des transformations d'aussi grande ampleur. Et puis ça peut être un moyen de continuer à imaginer comment on peut passer de 18% à 30%, à 50% ou à 70%. Donc c'est une vallée dans laquelle, c'est très joli, hein, la Biovallée, dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs différents, qui sont à la fois des acteurs institutionnels et des acteurs économiques. Elle s'est posé la question, finalement on était à quelques pourcents d'agriculture biologique, on est à 18%, est-ce qu'on est dans une transition en cours et est-ce que je peux utiliser la MLP pour essayer de comprendre comment on est passé de quelques pourcents à 18% et comment les acteurs se sont associés entre eux pour parvenir à impulser cette nouvelle trajectoire socio-technique. Et puis par ailleurs, elle a travaillé pour savoir si l'échelle territoriale a facilité le processus, mais je ne vais pas détailler cet élément-là. Je ne vais pas détailler grand-chose d'ailleurs, parce que je vois qu'il est déjà 17h52. J'ai deux solutions. Soit je continue l'exposé, je m'arrête à 6h et je le termine demain au début de la dernière conférence. Soit je coupe et je vais directement aux éléments de conclusion. Vous revenez demain ou pas ? Ouais. Donc je peux rogner sur celle de demain pour pas tout zapper là à la fin et terminer quand même à 18h ? Oui. Je sais que Pierre Stassard me fait de la concurrence déloyale demain parce que de 14h à 17h, il y a un truc sur la génétique là, de l'autre côté. Mais bon. Donc on fait comme ça, je continue un peu, je ne termine pas ce soir et je termine demain après-midi. C'est bon ? C'est bon ? Donc ce qui est intéressant, c'est que Sybille a essayé de travailler avec la MLP. Mais qu'en même temps, elle a combiné ça avec d'autres théories, et en particulier une approche sociologique, parce qu'elle était co-encadrée par une sociologue. Et elle a fait l'épreuve d'essayer d'utiliser la MLP, qui est très heuristique et très séduisante, dans une recherche empirique sur cette question de la biovallée. Et donc elle a travaillé sur les mécanismes de transition. Et finalement, ce qu'elle a trouvé, c'est que ça ne marche pas comme dans la théorie. C'est-à-dire que dans la théorie, normalement, vous voyez bien que le régime socio-technique, il part de la situation de départ, mettons quelques éléments, quelques pourcents d'agriculture biologique, et puis il se transforme progressivement pour arriver à un autre régime socio-technique. Et elle, ce qu'elle constate, c'est que finalement, il y a l'émergence non pas d'un, mais de deux paradigmes alternatifs, deux nouvelles configurations, qui vont cohabiter avec la situation, le régime socio-technique dominant, sans pour autant le transformer et être totalement absorbé par ce régime dominant. Et donc on va avoir une cohabitation, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, entre le régime dominant à peine transformé et deux régimes socio-techniques adjacents, qui sont différents entre eux et qui contribuent, l'ensemble, tous les trois, à avoir cette biovallée avec 18% d'agriculture biologique. Donc c'est ce qu'elle illustre dans cette diapositive. Vous avez un axe des temps, 1969 jusqu'à 2014, la fin de sa thèse, ou la fin des travaux de recueil de données de sa thèse. Vous avez le régime socio-technique dominant, celui de la modernisation agricole, qui est le seul pratiquement qui existe il y a 40 ans, avec une diversité d'acteurs. Chaque rond correspond à un acteur, et l'intensité du cercle noir correspond à son importance dans le paysage. Par exemple, la Chambre d'agriculture est un acteur super important entre 1969 et 1991, avant que n'émergent les paradigmes alternatifs. Au cours du temps, la modernisation agricole résiste. Il y a une transformation du régime socio-technique, avec finalement peut-être l'émergence d'un certain nombre de choses qui viennent des niches, qui font que certains acteurs quittent cette modernisation agricole. Et on se retrouve ici avec des acteurs qui demeurent, par exemple la Chambre d'agriculture, mais d'autres qui sont passés de ce régime-là à un autre. À côté de la modernisation agricole, de ce paradigme-là, vous avez la modernisation écologique, qui est en gros la transformation en agriculture biologique. Elle est possible à partir du moment où émergent de nouveaux acteurs qui s'allient à certains acteurs qui quittent le paradigme dominant et qui vont rejoindre un paradigme alternatif. Cette modernisation écologique, elle se traduit par exemple par la grosse coopérative locale, coopérative d'agriculture biologique, la Carline, qui finalement permet l'émergence, parce qu'il y a un circuit de distribution et de commercialisation, de ce paradigme de modernisation écologique. Et puis à côté de ce deuxième paradigme vient cohabiter un troisième, celui de l'écologisation radicale, puisque certains nouveaux acteurs apparaissent, et ces nouveaux acteurs ne sont pas satisfaits de cette transformation qui n'est pas suffisamment radicale. Par exemple, l'aromathérapie, qui est une méthode pour soigner les animaux à partir d'huiles essentielles, et quelque chose qui ne rentre pas bien dans le paradigme de modernisation écologique. De nouveaux acteurs apparaissent. Certains quittent le paradigme dominant pour aller directement à celui-là. D'autres quittent ce paradigme-là pour aller à celui-là. Et on a finalement cohabitation en 2014 du régime socio-technique dominant qui continue à exister, du régime de modernisation écologique qui bat de l'aile, et puis c'est celui d'écologisation radicale. Donc Sibylle analyse cet ensemble-là et regarde comment les jeux d'acteurs, les passages d'un acteur à l'autre, les associations entre différents acteurs rendent possible la stabilisation et le déploiement de régimes dominants et ensuite de régimes alternatifs, pardon, et ensuite elle étudie quelle cohabitation est possible entre les différents régimes sur le terrain. Donc on a quelque chose qui est assez différent du schéma dans lequel le régime socio-technique est modifié par les niches et les niches disparaissent. On a finalement cohabitation de trois systèmes. Et là, regardez après l'effet d'une diversité de niches et en fait comment un ensemble d'acteurs, ici quatre agriculteurs majeurs, qui ont des rôles différents au sein de l'ensemble du système socio-technique, se renforcent mutuellement pour parvenir à faire émerger un paradigme alternatif. Donc la combinaison des effets de différents acteurs est un élément essentiel pour la transformation du système. Je passe là-dessus. Hop. Et je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'il est moins 2. Donc voilà, ça c'est le premier point de la deuxième partie, c'est s'appuyer sur la théorie des transitions et commencer à comprendre comment cet ensemble-là fonctionne, de manière à pouvoir utiliser les connaissances sur ces trajectoires de transition pour la transformation de l'ensemble des systèmes. Donc c'est quelque chose qui a 10 ans d'existence au maximum dans le domaine agricole, le fait qu'on s'intéresse à ces systèmes en transition et ces mécanismes de transition. On est très loin du capital de connaissances qu'on peut avoir sur d'autres éléments de l'agroécologie. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On est dans l'évolution, l'émergence de ces questions d'analyse des transitions. Et en même temps, on voit, en tout cas me semble-t-il, que si on ne s'intéresse pas à ça, on a très peu de chances de transformer correctement les systèmes. Vu la complexité des jeux d'acteurs, vu la variabilité des situations qu'on va rencontrer sur le terrain, cette connaissance des mécanismes de transition me paraît être un élément essentiel. J'arrête là. Et demain, je reprends à partir de là le deuxième point, parce qu'il me semble que, au-delà de ces dimensions collectives, on a aussi des choses à apprendre sur les comportements individuels et les composantes individuelles du changement, dont des questions autour de comment est-ce qu'un agriculteur apprend et comment est-ce qu'un agriculteur s'outille pour la transformation. Voilà, et donc, demain, 15h. Bonne fin de journée.